amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec l'Hacienda, la communauté des fans de Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcaster. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Et mon Dieu que c'est caliente cette semaine. Chaque émission de Silicon Carnet a son propre NFT. Vous pouvez l'acheter. Il n'y en a que 10. Et quand vous achetez ce NFT, ça permet en fait de garder cet épisode éternellement sur Internet et d'y avoir accès publiquement de façon éternelle. Mais aussi, ça vous donne accès aux notes de cette émission. Et là, il y en a un paquet de notes. J'ai rédigé un paquet de trucs. Donc, si vous avez le NFT, je vous partagerai ces notes et vous pourrez aussi rejoindre l'Hacienda, qui est la communauté des fans de Silicon Carnet. Donc n'hésitez pas, ça se passe sur siliconcarnet.uncut.fm. 152 milliards, voilà combien les 15 plus grandes crypto-monnaies du monde ont perdu en valeur marchande en seulement 3 jours. La raison de ce crash brutal, la chute de la quatrième plateforme d'échange de crypto-monnaies, FTX, passe de 32 milliards de valeur à zéro en seulement 24 heures. Le 6 novembre dernier, le token interne de FTX, le FTT, a commencé à décrocher, perdant 80% de sa valeur en l'espace de 72 heures. Et c'est tout le monde des cryptos, déjà pas en super forme depuis le début de l'année, qui a été emporté au vent mauvais, si je veux citer Verlaine. Alors que s'est-il passé quand on y regarde de plus près? L'histoire paraît à peine croyable. C'est un véritable feuilleton à l'américaine qu'on vous raconte cette semaine dans Silicon Carnet. Vous avez aimé le feuilleton Twitter Musk de la semaine dernière, vous allez adorer le péplum FTX. Faites sauter les popcorns, asseyez-vous confortablement, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Alors pour commenter ce feuilleton, j'ai avec moi deux invités. Ma première invitée, c'est une aficionado, elle fait partie de l'Hacienda. Elle s'appelle Camille Lambert, elle a passé 12 ans dans la banque chez BNP Paribas, on est vraiment désolé Camille, mais depuis tu t'es échappé et tu es devenue investisseur et consultante en crypto, en Web3, notamment pour le monde bancaire, et tu travailles pour un fonds d'investissement, on peut pas en donner le nom. Camille, bienvenue dans Silicon Carnet.
Bonjour Carlos. Surtout, je fais ça depuis 2019, je suis tombée dans la crypto et donc c'est assez marrant de, après une vie bancaire dans une salle de marché, de voir l'autre côté, un nouvel type de sous-jacent, ouais. Les cryptos. Et de voir que finalement, rien de nouveau sous le soleil. On en parlera tout à l'heure.
Ouais, on en parlera tout à l'heure. Mon deuxième invité, c'est, vous le connaissez tous, c'est Fred Montagnon. C'est le monsieur crypto en France. Il a créé LGO en 2016. Je dis LGO en anglais parce que c'est une boîte américaine, Fred, c'est ça. Mais c'est LGO en français. Et d'ailleurs, c'était pas un crypto exchange, LGO?
Salut, écoute, c'est magnifique, tu vois, de t'entendre avec cette pêche, parce que quand même, on a tous la gueule de bois.
Ouais, ouais, je comprends.
Et petit commentaire en introduction, à chaque fois que tu m'appelles, c'est quand même pour commenter une catastrophe.
Ouais! Donc,
tu m'as mis dans cette case. Oui, c'était un exchange. Mais qui est pas forcément connu du grand public, puisque on travaillait uniquement avec des institutionnels. À l'époque, j'habitais à New York quand on l'a monté. Et on travaillait avec des gens qui étaient, qui sont toujours pour la plupart, pas tous, mais des liquidity providers, des gens qui font de l'arbitrage, donc des professionnels en fait, il n'y avait pas de particulier. Et entre autres, nous avions Alameda, dont on a certainement beaucoup parlé dans cet épisode.
Ah génial, mais je ne le savais pas. Et oui, tu as raison, tu m'as dit ça quand je t'ai contacté, je t'ai dit bon, il faut qu'on parle de FTX cette semaine, je suis désolé Fred Montagnon, t'es de service, il faut que tu viennes, t'es comme un réserviste de Silicon Carnet, je suis désolé, on t'appelle au front quand on a besoin. Et tu m'as dit mais tu m'appelles à chaque fois qu'il y a une cata. En même temps Fred, c'est souvent qu'il y a des catas dans la crypto quand même. À ma décharge,
ça fait partie de la, en fait c'est devenu une culture quelque part.
Absolument.
Il n'y avait pas ça dans les marchés traditionnels. Enfin, il n'y avait pas ça. Je ne sais pas, parce que bon, Robin Hood, etc., ça a fait venir des gens s'intéresser au marché en direct. Et quelque part, tout ça, ça crée des cultures. Donc aujourd'hui, tu traites le marché en étant à moitié sur Twitter, à moitié sur Discord, et puis un tout petit peu sur une plateforme de trading. En fait, les décisions pour beaucoup, beaucoup d'acteurs, elles se passent sur les réseaux sociaux, ce qui est évidemment complètement perturbant par rapport au monde traditionnel financier. Et c'est ce qui va nous permettre d'expliquer en grande partie tout ce bordel.
Exactement. Camille, est-ce que finalement dans le monde traditionnel de la banque et du trading classique, est-ce que c'est pas non plus une culture, cette culture du crash, parce que on parle beaucoup du crash des cryptos aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce qui fait la une des médias, mais il y a eu des crashs aussi dans le monde de la bourse traditionnelle. On se rappelle de 2007-2008, c'était aussi des actifs pourris, il y avait plein de choses comme ça, et c'est régulier aussi.
Bah, on va dire que les sagas du côté bancaire sont un peu plus longues à se développer et surtout à crasher, parce qu'il y a eu Lehman en 2008, suivi par un Kerviel, suivi par un scandale UBS sur le Delta One, puis après il y a eu les subprimes qui ont fini d'exploser, qui a tout ça terminé par des lois et des régulations. Et on en parlera certainement ouais, là-dessus.
Bien sûr.
Donc, c'est juste que c'est du côté traditionnel, c'est beaucoup plus long à cracher, mais c'est un peu le même cycle, malheureusement.
Cette semaine, alors on regarde ce qui se passe sur FTX. J'ai envie de vous poser cette question, what the fuck, quoi. Est-ce que c'est le plus gros crash crypto de tous les temps, Fred ?
Alors, c'est certainement le plus gros sur le nombre d'utilisateurs impactés, sur les interconnexions de toutes les plateformes les unes avec les autres. On a déjà connu ça dans le passé. Moi, j'ai été vacciné il y a 10 ans pratiquement avec une plateforme qui s'appelait MTGOPS ou Mondbox, montée par un Français basé au Japon, qui est toujours au Japon.
Tu sais qu'il a, pour la petite anecdote, il revient là avec un nouveau projet. J'ai reçu son deck là cette semaine.
Il a raison. Il a...
J'hésite hein, quand même parce que quand même. Mais on va pas donner son nom, mais il revient avec un nouveau projet, l'ami.
Écoute, je pense qu'il a eu le temps de réfléchir parce qu'il a quand même fait de la prison. Enfin, c'était assez terrible. Ouais. Et à l'époque, ça concernait finalement peu d'utilisateurs parce que je fais partie des heureux élus à avoir perdu des bitcoins sur cette plateforme. Ça fait donc pratiquement 10 ans qu'il y a une procédure qui est en route. On doit être 30 000, je crois. Mmh. Mais bon, on n'était que 30 000 à l'époque.
Là, on parle de combien de personnes là ?
A priori de centaines de milliers, minimum, probablement de millions. Après, bon, la plupart des utilisateurs en général sont pas très actifs, ont pas forcément beaucoup de capital sur les plateformes. Mais là où, pour répondre à ta question, est-ce que c'est le plus gros crash? Disons que les professionnels utilisaient cette plateforme. C'est ça qui fait la différence. C'est que quand on dit le monde institutionnel a commencé à s'intéresser aux crypto-monnaies et au trading de crypto-monnaies, beaucoup, la plupart utilisent des produits dérivés pour le faire. Mais en bout de chaîne, il faut quand même pouvoir opérer sur le marché en direct. Et donc, en fait, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de fonds d'investissement qui utilisent, ou qui utilisaient pour le coup, FTX comme plateforme pour pouvoir négocier des tokens avec tout un tas de capacités qui sont vraiment... Alors là, c'est Wall Street qui débarque dans la crypto, en fait, hein, FTX. Hein, c'est un exchange extrêmement perfectionné avec des fonctionnalités très avancées pour pouvoir faire du levier. Donc, c'est pas n'importe qui peut pas s'en servir. Autant te dire que ma maman est complètement étrangère à ce monde-là et n'utilisera jamais ce genre de plateforme.
Oui, son livret A est toujours bien à la caisse d'épargne ou dans une autre banque, chez l'écureuil ou ailleurs. Elle s'en fiche un petit peu du crash de FTX, ta maman. Ma mère aussi. Hein.
Elle s'en fiche complètement, effectivement. Elle m'a quand même posé la question ce matin de savoir si j'avais... un rapport avec ça.
Si t'avais perdu beaucoup d'argent.
je n'irai pas en prison, maman. Et donc, voilà, c'est l'impact, en fait, il est fort parce que c'est un outil qui permettait à des professionnels d'opérer. Donc, ça veut dire que ces mêmes professionnels, c'est des fonds d'investissement, c'est d'autres plateformes. Et donc, tu as un espèce de jeu de contagion. D'ailleurs, en réalité, ce crash-là, quelque part, il est la conséquence du crash qu'on a connu aussi en début d'année. Donc, tu vois, c'est un jeu de domino qui avait été arrêté là en cours de route, puis qui reprend.
Ouais.
Donc, bah oui, c'est le crash le plus important par le nombre de personnes touchées.
Alors, on va revenir dans le détail du crash, comment ça s'est passé et comment cet effet de domino a eu lieu. On va détailler tout ça dans cette émission. Ne vous inquiétez pas. Camille, rappelons-le, finalement, c'est pas tellement la faute de la blockchain. On a affaire à juste des gens qui sont des truands et qui ont abusé de la confiance de leurs utilisateurs. C'est pas un défaut de la blockchain en soi, cette histoire de FTX.
Bah c'est justement, c'est ça qui est horrible, c'est que ça n'a à peu près aucun rapport avec la blockchain, mais que malheureusement, le seul buzzword qu'on a retenu, c'est la blockchain. Parce qu'en fait, c'est un exchange qui avait, par coïncidence, qui utilisait des tokens qui étaient sur des blockchains. Mmh. Mais c'est peut-être le seul point commun dans ce problème. Ce que disait Fred, et il a raison, c'est que ces fonds d'investissement, pourquoi ils étaient dans ce FTX ? C'est parce qu'il y a le bras armé qui s'appelle Alameda, ou qui développe des stratégies quantitatives, c'est-à-dire c'est des façons de gagner de l'argent et des algorithmes. Et donc, du coup, ce qui fait que dans les crashs d'avant qu'on a eu, qui ont touché le grand public, là, ça a touché les institutionnels, parce que ces gens-là laissaient du cash sur la plateforme pour être capable de faire...
En fait, ils avaient confié cet argent-là à FTX de façon très centralisée, pas du tout décentralisée sur la blockchain. Donc, ils ont donné leur argent en gestion, quelque part, à Alameda et indirectement à FTX, parce qu'on va voir le lien entre ces deux sociétés, et qu'ils ont confié cet argent à des truands qui sont partis avec la caisse. Quoi. C'est grosso modo, si je veux résumer l'histoire, ils ne sont pas totalement partis avec la caisse, mais ils ont fait n'importe quoi avec cet argent, c'est ça ?
Ils ont convaincu... Ils ont confondu le dépôt de leurs clients avec leur argent de poche.
Avec FTX, on fait souvent le parallèle avec l'affaire Lehman Brothers. Et toi, tu me disais, Camille, pas totalement, ça ressemble pas à Lehman Brothers, ça ressemble plus à l'affaire Enron, où il y avait véritablement des malversations financières, alors que Lehman Brothers, c'est pas des malversations financières qui ont fait crasher... Lehman Brothers.
En fait, là, c'est un combo de Lehman Brothers et Enron. C'est ça qui est horrible. Donc, l'affaire Lehman Brothers, petit rappel,
ouais.
C'est je vends des crédits à des Américains en espérant qu'ils me rembourseront un jour, je package ça, je mets tous ces crédits de plus ou moins bons créditeurs dans un espèce de beau papier cadeau que je vends à des investisseurs qui vont donc acheter ces crédits. Et à un moment donné, l'Américain ne peut pas rembourser ses crédits. Là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de vendre des crédits, je mets des tokens.
Ouais.
D'autres projets, d'où l'effet contagion. Donc, je crée un autre projet, je mets tous ces tokens ensemble et je le vends dans ce projet-là. Et de l'autre côté, en plus, non seulement je vends des projets plus ou moins bons, mais en plus, je me sers dans la caisse parce que comme ces projets perdent beaucoup d'argent, je dois être en capacité de survivre et aux appels de marge. Donc, je suis obligé de liquider ses besoins, et comme je n'ai plus de fonds propres, je me sers en espérant, c'est le fameux j'espère que je vais me refaire.
Ouais, j'espère que je vais me refaire. C'est un peu le joueur au casino qu'en fait qui perd et puis qui revient à la tirette pour reprendre de l'argent en permanence, qui commence à utiliser d'ailleurs la carte bleue des autres parce que il se dit non mais je vais me refaire et je vais rembourser tout le monde, et puis au bout d'un moment on sait que ça marche jamais ce genre de pratique là.
Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'année, avec Celsius qui a déjà emmené les cryptos un petit peu à la cave, c'est que du coup, il a dû se servir de plus en plus parce qu'il, du coup, ça lui a pas permis de se refaire.
Oui, parce qu'ils avaient investi dans Celsius et ils avaient investi dans d'autres projets qui s'étaient cassés la gueule. C'est l'effet domino dont parlait Fred tout à l'heure. Alors, on va rappeler qui est FTX, et notamment, on va revenir sur son fondateur, Sam Bankman-Fried. Bankman, ça s'invente pas hein, comme nom, hein, le mec. Hein. Alors, c'est une société qui a été donc créée par Sam Bankman-Fried, je sais pas comment on dit. Il a 30 ans, c'est un diplômé du MIT. Il est connu sous le pseudo SBF sur Twitter. D'ailleurs, dans les notes de cette émission, je vous ai mis son accès à son compte Twitter qui mérite quand même une visite parce qu'il se passe des trucs en ce moment sur son compte Twitter qui sont pas non plus piqués des verres. Et puis, Fred, jusqu'à il y a encore quelques semaines, ce SBF, on va l'appeler comme ça, hein, c'est le patron de FTX, il était un peu considéré comme le génie des cryptos, ce mec.
Oui, en fait, on parlait de culture tout à l'heure. Depuis le début de tout cet univers hein, qui démarre avec Bitcoin, il y a des personnages, il y a des espèces de stars. Alors, bon, Satoshi, c'en est une, mais bon,
on ne connaît pas.
On ne sait pas qui c'est, si c'est un groupe, il n'y a pas de compte Twitter. Et il y a des gens qui se sont fait connaître. Alors, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Qui pour la plupart quand même étaient un peu des margoulins ou des bricoleurs, et ça a fonctionné pendant un temps, pendant que les gens s'éduquaient un petit peu sur le marché. Enfin, assez rapidement quand même, il a fallu trouver des voies un peu plus raisonnées et puis avec un petit peu plus de fond et de compétences. Ben ça, mais il coche bien les cases en fait, parce que c'est
MIT.
Voilà, il est très institutionnalisé, il vient d'une famille très respectable, on le verra certainement tout à l'heure. Et puis, il a un discours qui est un discours un peu raisonné, dans un premier temps en tout cas. Et puis, il explique comment les choses fonctionnent et il est toujours là pour donner des leçons et pour dire « vous ne comprenez pas comment ça marche, moi je vais vous expliquer ». Et honnêtement, quand on le suit il y a encore un an ou deux ans, franchement, c'est assez pertinent. Il a toujours un coup d'avance, sa plateforme avance très très vite, c'est le premier à être capable de délivrer des fonctionnalités sur cette plateforme très, très évoluée. Et puis historiquement, c'est, alors donc il a d'abord fondé Alameda, qui est une, c'est un espèce de hedge fund, je sais pas comment faut appeler ça, ils font de l'arbitrage, ils prennent de l'argent. C'est des gens qui savent où trouver du hedge et où quelque part profiter d'une donnée, d'une technicité que la plupart des traders n'ont pas. Et puis du coup, fort de ce premier succès, il crée en fait la plateforme sur laquelle il va pouvoir opérer.
Deux ans plus tard, voilà. 2019.
Ce qui, en principe, ne doit jamais se faire parce que dans un univers où la morale existe et le régulateur existe et la prison existe, normalement, tu fais pas ça. Tu vois, c'est comme les auditeurs qui font du conseil. Ça a été normalement interdit parce qu'il faut séparer un petit peu les choses.
Camille, tu voulais réagir. En fait, grosso modo, il y a deux sociétés. Il y a une société de trading qui s'appelle Alameda qui l'a créée en 2017 et ce plateforme d'exchange qu'il a créé en 2019. Et là, ça, déjà, effectivement, il y a une sorte de conflit d'intérêts quelque part entre ces deux sociétés.
Dans la finance traditionnelle, il y a une petite loi qui s'appelle la loi de séparation bancaire qui a été votée en 2013, qui oblige les banques d'investissement, par exemple BNP Paribas ou Société Générale ou beaucoup d'autres, à séparer leur hedge fund et leur banque de détail traditionnelle. Donc, toutes les banques aujourd'hui ne peuvent pas, dans la même entité, avoir la partie où elles prennent, où elles font du quantitative et la partie où elles servent leurs clients.
Oui, mais attends Camille. En l'occurrence là, ce sont bien deux sociétés distinctes.
Mais justement, c'est la beauté, c'est qu'il a fait semblant de suivre la même logique, sauf que c'est le même CEO et qu'en fait, ils sont tous dans la même maison à diriger les deux sociétés. Donc, c'est ça qui est très, très beau, c'est qu'il vous donne cette apparence de transparence et de dire je respecte la banque traditionnelle en faisant le même genre de setup, mais c'est bidon.
Fred.
Et puis il y a une troisième chose, c'est que donc il a le côté quantitatif, il y a donc les strates, il a la plateforme qui permet d'opérer ces strates là, mais en plus de ça, il devient faiseur de marché dans le sens où il a 1 million de followers aujourd'hui sur Twitter.
Ouais.
Ce sont que des gens qui réagissent, un peu comme Musk, tu vois, dès que lui prend une position, tout le monde le suit.
Ouais.
Donc en réalité, quand il dit quelque chose, c'est auto-réalisateur. Et donc ça, il l'a utilisé 1000 fois hein, pendant ces années, et ça avait pris de telles proportions que probablement, il s'est dit qu'en fait, le marché, c'était lui, et qu'il était capable de faire n'importe quoi, et que donc, s'il voulait que le marché monte, le marché allait monter. Et honnêtement, c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps.
Mais je voulais te challenger un petit peu sur quand tu disais, Fred, que c'était quelqu'un, on avait besoin d'une figure un peu propre, entre guillemets. Mais quand on le regarde, et je vous invite à aller... écouter des interviews de Sam Bankman sur internet, il y en a plein. Bon, il se pointait quand même en short en interview. Il avait une dégaine quand même de geek avec des cheveux gras. C'est pas non plus la figure du trader de Wall Street, hein, Sam Bankman.
Non, mais par contre, il incarne, si tu veux, ce renouveau,
ouais.
Un petit peu comme Mark Zuckerberg à l'époque. Hein,
ouais, c'est ça.
Avec ses espèces de tongs. Bon, bah aujourd'hui, il s'habille parce qu'il sait qu'il a le régulateur sur le dos. Bah, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde en fait a envie de s'identifier dans ce mec qui vient pas de nulle part, hein, mais presque, et qui arrive à faire quelque chose de fantastique en très peu de temps. Ça répond finalement à l'attente de tous les gens qui opèrent sur ce marché crypto à devenir riche overnight. Et lui, il l'a fait.
Alors FTX est devenu en quelques années une des plus grandes plateformes d'échange de crypto. Elle a levé des milliards de dollars auprès des investisseurs de la Silicon Valley et de Wall Street. Et puis, on a vu les plus grandes stars américaines faire la promotion de FTX dans des spots publicitaires d'ailleurs géniaux. Hein. Y en a même qui sont passés pendant le Super Bowl, qui est quand même la consécration. Donc effectivement, la marque en quelques années est arrivée à s'installer comme une... Oui, une une valeur sûre, une marque de confiance qu'on retrouvait dans les médias traditionnels et qui s'adressait au grand public, hein, Fred.
Oui, c'est là où il a été très fort, c'est-à-dire qu'il a réussi en montant tout ça à créer le marketing qui allait bien, à trouver les bons codes. Il a donné de l'argent à des associations, il a financé des campagnes. Bref, il a le playbook en fait de l'institutionnalisation de sa marque et de sa plateforme. Et de loin, honnêtement, moi je m'étais jamais trop intéressé à FTX parce que bon, je suis pas un trader. Donc j'avais un compte pour voir comment ça fonctionne et puis moi ça me captive pas plus que ça, mais je me suis jamais laissé dire que cette plateforme pouvait ne pas être américaine et ne pouvait ne pas être régulée.
Ouais, c'est vrai, moi c'était une découverte aussi quand j'ai découvert que la société était en fait une société incorporée aux Bahamas, on va en reparler de ça, et pas du tout une société américaine qui quelque part était un petit peu surveillée par la SEC, en tout cas de beaucoup plus près, voire par les marchés publics comme peut l'être un Coinbase. Moi j'ai mes actifs sur Coinbase par exemple et c'est là qu'on se rend compte que effectivement l'intérêt d'avoir des autorités un peu de contrôle et de régulation. Camille,
ses clients c'est des fonds d'investissement qui sont basés aux Caïmans et aux Bahamas, donc pour eux ça les dérange pas vraiment, ils se retrouvent sur la même plage. Donc c'est pour ça, au départ c'était surtout une plateforme institutionnelle, et en fait moi je pense qu'il a élargi sa base de clients aux particuliers parce qu'il avait besoin de plus de fonds. Et il savait bien que ces institutionnels, ils font back and forth, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils vendent. Sauf qu'un particulier comme toi et moi, on dépose nos tokens et on ne trade pas tous les jours.
Ouais, bien sûr.
Donc du coup, il a besoin de liquidité en permanence. Parce qu'il faut savoir qu'un exchange, pour survivre, a besoin d'un pool de liquidité. Et pour ça, il faut donc des gens qui laissent leur argent dessus. Sauf qu'un hedge fund, je peux te dire qu'il optimise la gestion de son cash. Donc si jamais l'argent ne lui rapporte pas assez sur cette plateforme, il va la placer ailleurs.
Ouais.
Donc il avait besoin de pigeons comme nous pour permettre de faire durer le rêve plus longtemps.
Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans la saga de FTX et qu'on explique aux gens comment est-ce que le château de cartes s'est écroulé. Il y a déjà un truc super intéressant dans cette histoire, c'est le fait que l'un des premiers investisseurs dans FTX, c'était Binance. Binance qui est la plus grande bourse de crypto-monnaie, le plus gros crypto-exchange du monde, qui est dirigé par un Chinois qui s'appelle Changbeng Zhao, que tout le monde appelle CZ, CZ. Et en 2019, juste ce CZ a investi 100 millions de dollars dans FTX et a acquis 20% de la société.
Oui, d'ailleurs, on peut se demander aussi d'où vient tout cet argent côté Binance. Mais enfin bon, ça fera certainement l'objet d'une émission future, j'imagine. Donc effectivement, ils avaient investi pas mal d'argent assez tôt dans la société. Donc ils avaient une capacité de voir en tant qu'actionnaire, j'imagine, des choses que tout le monde ne peut pas voir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sortie, en fait. Alors, au passage, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont participé à des rounds de plus en plus important sur FTX, probablement porté aussi par la valo en bourse de Coinbase avant que la valo soit corrigée. On peut se poser un petit peu la question là de la responsabilité de ces fonds d'investissement qui rentrent, qui regardent rien, qui se suivent toutes les uns les autres. Pourtant, pour la plupart, ils avaient fait WeWork et Theranos avant.
Ouais.
Est-ce que ça les a vaccinés? Manifestement, pas beaucoup.
Il y a quelque chose de Theranos. Il y a effectivement quelque chose de Theranos dans ce Sam Bankman. Il y a quelque chose d'Elizabeth Holmes un petit peu dans le personnage. T'as raison de le noter, Fred.
Non, mais est-ce que c'est pas un effet FOMO pur? Pour moi, ces investissements, c'est plutôt... En fait, on a tellement peur de rater la next big thing qu'on met de l'argent pour voir. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé sur les premiers tours, à mon avis.
Ouais, non, c'est ça. Et je pense que si on verra la sortie de toute cette histoire, mais je pense que la responsabilité des investisseurs doit être questionnée et je serais pas étonné que les régulateurs se posent aussi sur la question, parce que une société qui a une croissance aussi importante, en réalité... La difficulté de la structurer pour créer la bonne structure de gouvernance, la bonne structure d'audit, la bonne transparence, le bon reporting n'est pas évident. Parce que là, on parle de... Tout se passe en 3 ans, au final. Hein. C'est très, très rapide. Et donc, en fait, c'est ça qui fait que quelqu'un d'un peu mégalo, qui perd les pédales, hein, peut finalement créer une structure dans laquelle il y a beaucoup d'opacité et dans laquelle il contrôle beaucoup de choses. C'est un petit peu ce qui s'est passé. En l'occurrence, donc, le fait d'avoir mis de l'argent dans cette structure et d'avoir donc un minimum d'informations sur ce qui s'y passait a permis à CZ, parce que je ne sais pas si c'est vraiment Binance qui a, enfin on ne sait même pas d'ailleurs qui a investi dans cette histoire, tout est très opaque, lui a permis de comprendre qu'il y avait un problème. Et il est sorti partiellement ou totalement, on ne sait pas d'ailleurs, de son investissement en étant payé en partie en cash et en partie en token FTX, FTT. Alors là, ça nécessite une petite explication. Cette plateforme de trading qui est FTX a émis un token avec une économie derrière ce token qui est assez légère. Et ce token, il vaut beaucoup d'argent. Donc, c'est FTX qui émet son propre token en plus de son equity. Donc, il y a déjà un espèce d'effet de levier au travers de ça et qui incorpore la valeur de son token qu'elle possède en partie dans son bilan.
Et si je dois expliquer, en fait, c'est vous rappelez, on vient de vous expliquer qu'il y a une relation entre FTX, qui est ce crypto exchange sur lequel nous on a déposé notre argent pour investir en crypto et donc on a fait des dépôts, et Alameda Research, qui est cette société de trading super opaque. Alors, en fait, FTX crée un token FTT, Alameda achète le FTT à un prix très très bas parce que bien évidemment ils sont copains tous les deux. FTX fait monter le prix du FTT à grand renfort de publicité et Alameda reverse le FTT à FTX comme garantie et emprunte des actifs réels sur les dépôts des clients de FTX jusqu'à ce que Binance se dise c'est pourri parce qu'effectivement eux ils ont certainement une visibilité. Il y a certainement, on peut se poser la question Fred, de se dire que Binance se dit mais FTX est en train de monter et devient ce qui était un petit copain au début que j'étais en train d'aider devient mon principal concurrent et donc il décide, parce qu'il n'y a pas que Sam Bankman qui fait la pluie et le beau temps, CZ il est aussi énormément suivi sur Twitter etc. Et un jour il poste un tweet en disant moi je vends tous mes tokens FTT parce que c'est un produit toxique, c'est un dérivé pourri. Et là, le château de cartes s'écroule. C'est ça, Fred, l'histoire ?
C'est complètement ça. Et en fait, il a probablement même pas besoin de les vendre parce que comme lui aussi fait du signaling sur le marché, tu te retrouves à avoir d'un côté un gars qui a 1 million de followers, de l'autre côté, il doit en avoir 8 ou 9, je ne sais plus. Et en fait, ça suffit. Le simple fait de faire 2-3 tweets dans ces situations de marché pas si liquides que ça, temps réel, suivi, opéré par des millions de personnes de petits porteurs dans le monde, en fait, t'envoies un signal, puis c'est terminé.
Et quand on regarde comment ça s'est cassé la figure, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que quand il a commencé à vendre ce CZ, Binance a commencé à vendre ses tokens, ça a causé le crash. Et puis, les cadres ont commencé à démissionner chez FTX. On a vu SBF commencer à péter des plombs et à raconter n'importe quoi. Et on l'a même trouvé dans l'histoire de Twitter et de Musk, où il a essayé de rentrer dans le deal et de proposer un peu de liquidité à Musk pour racheter Twitter. Et puis là, les allégations de manipulation du marché ont commencé à pleuvoir, hein, Camille. C'est là que, d'ailleurs, il y a eu ce fameux article dans CoinDesk qui a quelque part révélé le pot aux roses.
Le pot aux roses, d'ailleurs, qui était révélé avant que CZ tweet. C'est ça qui est marrant, c'est juste qu'on ne l'avait pas lu, ouais. L'article. Et il faut quand même retenir quelque chose. C'est que CZ, lui, pour le coup, il a dû, comme il a monté le même type d'exchange finalement, mais sans le bras armé. Lui, il a quasiment arrêté toute la partie dérivée, puisqu'aujourd'hui, il ne vend plus de futurs sur Binance, pour se structurer justement et faire ce que Sam n'a pas fait. Et donc là, il se retrouve dans une situation où il a des participations, le token de son concurrent. Et donc, normalement, quand tu vends le token de ton concurrent, lui, il a donc dit, comme c'est sur la blockchain, vous allez le voir, je vous préviens que je le vends. Sauf qu'il a rajouté la petite phrase qui tue, parce qu'il y a des trucs louches.
Ouais, et c'est le parce qu'il y a des trucs louches qui a commencé à faire effet domino. Bon, on va voir justement toutes les conséquences de ce crash pour le monde des cryptos et puis peut-être aussi pour tous les autres crypto exchanges. On va aussi rentrer dans le détail de quelques épisodes croustillants de cette histoire FTX parce que il y a des choses quand même qui sont assez drôles. Je vous propose de regarder ça dans la seconde partie de Silicon Carnet. Vous Vous êtes dans Silicon Carnet, on parle cette semaine avec mes invités du jour où les cryptos ont pris une grande claque dans la gueule. Je suis en compagnie de Camille Lambert, qui est une consultante en crypto Web3 qui conseille le monde bancaire et les fonds d'investissement sur leur investissement en crypto. Ça doit pas être facile en ce moment, Camille. Et puis Fred Montagnon, qui est le monsieur crypto en France, comme je le disais, qui a fondé Ariany, cette plateforme Web3 pour les grandes marques du monde entier. Si vous appréciez cet épisode, vous pouvez aller acheter le NFT de l'émission. C'est une façon de soutenir Silicon Carnet qui n'a pas de publicité, pas de sponsor. On ne repose que sur la générosité et l'investissement des fans de Silicon Carnet. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à travers vos réseaux sociaux. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors, on continue la saga FTX ensemble, les amis. On l'a vu, on a compris à peu près, même si il y aurait beaucoup à dire et c'est un petit peu technique, comment est-ce que tout ça s'est passé. Mais je pense que là, les gens commencent un petit peu à comprendre toute la mécanique. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous racontez, c'est que finalement, c'est une mécanique qui n'est pas propre du tout au monde de la blockchain et des cryptos. Et on a une mécanique à la fois... le type d'investisseur et le type d'agissement et ce type de malversation qui est assez commune dans le monde de la finance et qu'on a déjà vu dans le monde bancaire traditionnel. On a parlé de Lehman Brothers, on a parlé de l'affaire Kestrel et de tout un tas de d'autres affaires comme ça. Et effectivement, on est à peu près sur les mêmes ressorts que tout ça. Mais bon, effectivement, le crash est absolument colossal. Et beaucoup de monde est exposé à ce crash aujourd'hui. À qui profite le crime, Fred ?
Eh bien, je pense, dans la situation actuelle, je pense vraiment à personne. Parce que on le voit, en fait, sur des marchés qui sont aussi récents, aussi dynamiques, tout est interconnecté. Donc, quand ça se casse la figure quelque part, franchement, c'était imprévisible. Je veux dire, c'est arrivé là comme ça, boum. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment réussi à profiter de cette chute, même en étant informés. Bon, il y a probablement des gens qui shortent, et etc. Mais enfin, comme les outils eux-mêmes qui servent à jouer le marché sont tous à risque, en réalité, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui aient réussi à faire ça. Et puis, là, l'équipe de FTX, clairement, c'est des gens qui risquent la prison. Hein, donc, ce n'est pas eux qui vont s'enrichir, ou en tout cas, si c'est le cas, ça va être compliqué. Donc non, malheureusement, on est et d'un point de vue réputationnel, en fait, ça casse tout. Parce que on est en train de... Voilà, on voit dans la presse aujourd'hui des articles qui titrent que la crypto, c'est terminé. Évidemment, on va conclure sur une autre note. Mais c'est vrai que ça casse une dynamique, ça casse de la confiance, ça casse de la valeur pour tout le monde. Et je peux même pas dire qu'en face, il y a un camp qui soit victorieux dans l'histoire. Parce que en réalité, les banques traditionnelles, le monde de la finance traditionnelle, c'est plus vraiment, je pense, un combat. Ça l'a été pendant un temps. Aujourd'hui, c'est un asset comme un autre. Nous qui sommes dedans, on aimerait que ce soit beaucoup plus adopté et utilisé, mais en réalité, il n'y a pas de victoire. Mais vraiment, c'est vraiment du saccage, quoi.
Camille, comment réagit le monde bancaire depuis la semaine dernière ? C'est je vous l'avais bien dit, ou alors c'est quoi la réaction de ce monde bancaire qui commençait à mettre un peu le pied dans le pédiluve, quoi, des cryptos ?
On va dire que les fonds d'investissement qui essayaient de convaincre leurs souscripteurs de laisser faire des plus grands fonds crypto, c'est un peu plus difficile. Après, pour le coup, les banques, elles voient plutôt ça positivement en se disant que malheureusement, ce qui est en train d'arriver va obliger un grand nettoyage et que du coup, ça va permettre de mettre en place des régulations, mais intelligentes. Et donc, ça fait très mal aujourd'hui, mais ça aurait pu faire encore plus mal si c'était arrivé dans un an à une meilleure adoption. Là, ça sera... De toute façon, cette année, c'est une année horribilus de la crypto, si on pouvait faire un espèce de parallèle. La bonne nouvelle, c'est que du coup, tout le monde repart sur les basiques, l'éducation. Notre petit chouchou français Ledger, du coup, lui, est le seul peut-être gagnant de cette affaire, parce qu'il a fait son meilleur chiffre d'affaires la semaine dernière. Mais à part ça, clairement, il n'y a pas de gagnant. Il faut juste se dire que quand même, le marché résiste pas si mal que ça par rapport à l'événement. Moi, je trouve quand même que ça veut quand même dire qu'on est dans un niveau de maturité qui est important, parce que vu ce qui est arrivé cette année, que le Bitcoin soit encore au niveau où il est, moi je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça.
Ou alors ça veut dire, Camille, que finalement il avait pas tellement de d'investisseurs particuliers, ce FTX, parce que moi quand je pose la question autour de moi, j'ai pas trouvé encore quelqu'un, ou alors peut-être que les gens ne veulent pas me le dire, mais j'ai trouvé encore personne qui me dit non mais moi j'étais sur FTX et j'ai perdu toutes mes cryptos. Est-ce qu'il finalement, Fred, il y en avait tellement que ça des investisseurs particuliers sur FTX? Je pense qu'il y en a beaucoup plus sur Coinbase, hein.
Alors c'est pas les mêmes types d'investisseurs. C'est-à-dire que là, on est FTX s'adressait à des gens. Alors attention, j'allais dire sophistiqués et compétents, qui se pensent sophistiqués et compétents.
Ouais.
Donc c'est des gens qui en sont arrivés à force de voir les tokens monter à se convaincre que c'était des bons traders. Je caricature un peu, mais enfin je le pense un peu. Et donc, au bout d'un moment, quand t'es un bon trader, en fait, tu vas pas trader là où tes potes vont trader, quoi. Tu vois, t'as un truc encore mieux.
C'est comme les boîtes de nuit, quoi. Tu vas pas dans la boîte de nuit où tout le monde va. T'as ton petit club à toi avec tes habitués et tes petits privilèges et tes petits avantages, notamment le token FTT qui te permettait d'avoir une sorte de truc, de quelques avantages sur la plateforme si tu étais porteur du token FTT.
Et il faut rappeler que la plupart des particuliers, ils vont sur des plateformes parce qu'ils peuvent faire du stacking. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser leur crypto et puis ça leur en donne plus. Or, FTX, c'était pas vraiment ça qu'ils vendaient. Lui, ils vendaient des capacités de faire du trading. Et en effet, tous ceux qui ont perdu de l'argent, c'est des gens qui pensaient être traders. Et je vais faire un petit parallèle. Dans la finance traditionnelle, quand vous êtes trader et que vous tradez des dérivés, alors déjà, vous basez sur des modèles. Et en fait, on a oublié que de trader des bitcoins, des Ethereum, il y a beaucoup de volatilité. Donc en fait, c'est comme si on tradait des dérivés, sauf qu'on s'en rend pas compte. Et que ça, malheureusement, il faut une éducation financière et mathématique. Et que dans un bull run, ça monte toujours, donc tu peux t'en sortir toujours. Moi, dans le bull run, j'ai fait des très beaux trades. Mais bon, fallait être mauvais pour perdre de l'argent, ouais. On va dire. Là, c'est la réalité de la vie. Et donc forcément, tous les trucs que tu as fait avant, ça marche plus. Et donc c'est pour ça que finalement, tous ceux qui ont perdu de l'argent sur FTX, c'est des wannabe traders ou des gens qui pensaient que ça allait continuer l'argent qu'ils avaient gagné. Et il y a très peu de particuliers pour moi.
Fred, bien fait pour eux finalement. C'est quelque part la punition de... Il y a eu tout un tas de gens qui sont rentrés dans le monde des cryptos en se disant on va tous devenir riches et qui ont clamé sur la place de Paris qu'eux avaient compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Finalement, il y a une sorte de reality check là, tout d'un coup. Et...
Ouais, je dirais pas bien fait pour eux parce que c'est un peu triste. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens, j'en vois en tout cas des gens qui s'étaient mis dans une situation de rentier en fait, hein, tu vois, qui se disaient finalement, regarde, si je fais, alors c'est toujours le même truc, hein, tu vois, tu prends un montant, tu dis bon, allez, si je fais 25% de performance par an, en fait, je peux vivre. Bon, les 25%, c'est hyper difficile hein, de les conserver dans le temps. Mais quand le marché monte, ça marche.
Ouais.
Assez rapidement, tu peux te convaincre de ça. Puis tu as tout un univers d'influenceurs, de contenus, de machins qui te laissent penser que c'est possible.
Ouais.
Donc, de toute façon, ça peut pas monter à l'infini parce qu'après, il y a d'autres mécaniques qui se mettent en route et qui font que ça n'est pas possible. Donc, je suis pas content, tu vois, pour de cette situation. Et en même temps, il faut quand même revenir à un moment donné à une situation où on construit des choses. Alors, dans cette culture, il y a toujours it's time to build, tu vois. Tout le monde te dit ça. Dès que ça descend, c'est it's time to build. En fait, quand ça montait, tu faisais quoi, tu vois. Et puis, quand ça dépend, tout le monde dit it's time to build. Mais qui build vraiment? Et là, on était arrivé à un niveau de folie, surtout en début d'année, où en réalité, les gens, et c'est difficile de s'en empêcher, tu regardes ton compte monter matin après matin, et la passion et l'énergie que tu mets dans ton vrai travail, si tu veux, à construire des choses vraiment utiles, est relativement marginale dans ces situations-là. Donc en réalité, quand tu vois la quantité d'argent qui a été investi, et ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, par des VC, par des investisseurs pour construire des vraies technologies et ce qui ressort derrière, heureusement, il y en a beaucoup, mais c'est pas très efficace, hein, compte tenu des montants qui sont mis en jeu.
Un des plus gros investisseurs dans FTX, c'est Sequoia, qui est quand même le fonds d'investissement de la Silicon Valley qui existe depuis Mathusalem et qui a pignon sur rue. Je pense que le partenaire qui a fait ce deal chez Sequoia doit être en train de préparer ses cartons. Mais c'est clair, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'un fonds Par exemple, tu parlais de Theranos tout à l'heure. La Silicon Valley s'enorgueillissait, ou WeWork, de ne jamais avoir investi dans ces boîtes-là. C'est-à-dire que Theranos ou WeWork, c'est pas la Silicon Valley, c'est fonds hyper professionnels, soi-disant, qui étaient les investisseurs de ces boîtes-là. Et a posteriori, elles étaient les premières à dire « Ah ben, nous, on avait vu que derrière, c'était un scam. » Bah là, FTX, ils ont rien vu, les gars. Camille.
Celui qui l'avait vu, faudrait qu'il se dénonce, hein, mais je pense que ça serait mentir. Franchement, moi, je voudrais voir les decks et je pense que Sam, il avait tous les codes de la profession. Il a des parents qui sont profs de droit, il a fait MIT, il a été dans un hedge fund James Street, il fait deux entités, donc tu te dis que ça ressemble à la logique, il présente bien.
Fortune, le magazine Fortune en fait la couverture. Toutes les semaines, il y avait, on avait Sam Bankman en couverture d'un magazine. C'est vrai que c'était hyper bien foutu. Et ce qui est très impressionnant, c'est comme le dit Fred, c'est la rapidité avec laquelle tout ça s'est construit, puisque la boîte s'est créée en 2019 et qu'on est en 2022. Le mec, en termes d'exécution de son scam, il a été incroyable, Fred.
Alors, scam, en fait, je pense que c'est ça le truc probablement le plus intéressant dans cette histoire. C'est est-ce que ces gens-là ont un plan au départ ?
Ouais.
Voilà. Je suis pas sûr. Moi, sans vouloir faire de psychologie et de bas étage, je pense qu'à un moment donné, en fait, ça va très, très vite. Tout le monde parle de toi. Tu arrives à trouver des moyens, en fait, d'être de plus en plus présent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors sol au bout d'un moment. Et c'est-à-dire que, en plus de ça, lui, il vivait aux Bahamas. Il avait quand même organisé les choses pour être quasiment intouchable, hein, en réalité, parce que alors Bahamas, c'est 300 000 personnes et c'est il y a un régulateur, mais enfin, tu vois, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, il y a 60 personnes hein, qui travaillent chez le régulateur en l'occurrence, là où tu as 3 000 personnes aux États-Unis pour les mêmes fonctions. Donc au final, il s'est un peu organisé comme ça. Et puis au bout d'un moment, bah, tu vois que ça marche, tu vois que ça continue à monter. Et puis, tu es dans un jeu d'ego. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec Sisi. Et à ce jeu-là, ben, il n'y a pas de limite. Donc c'est une fuite en avant. Je ne sais pas ce qui motive ça, mais je vois un pattern. Tu vois, on parlait de Theranos tout à l'heure. On peut parler de Cahuzac si tu veux. On peut parler même d'Oussama Hamar. Il y a plein de gens qu'on peut citer dans différents niveaux.
C'est-à-dire qu'ils croient à leur propre histoire au bout d'un moment. Et puis, que quelque part, on leur rappelle une histoire qui était. Où on transforme cette histoire, leur histoire, on en fait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes avaient pensé. Et ils sont obligés d'y croire parce que quelque part, il y a toute cette presse qui les encense quotidiennement. Camille ?
Et puis en plus, on fait toujours des parallèles. On a toujours besoin, quand on voit quelqu'un, de se dire c'est le Zuckerberg de la crypto, c'est le Steve Jobs de machin. Et donc du coup, bah, sauf que quand c'est ton icône, au bout d'un moment, je pense que tu gagnes beaucoup d'argent. Ça marche bien. Ça doit être difficile de dire stop, je me pose, je refais un plan et je réfléchis. Et donc à un moment donné, t'es pris dans une espèce d'engrenage. Je vais te donner des exemples qui vont paraître ridicules. Dans la finance traditionnelle, certains traders, à un moment, te disent « Moi, j'ai besoin de gagner toujours plus parce qu'aujourd'hui, mon salaire, c'est mon argent de poche. » Et t'es là, mais tu gagnes beaucoup d'argent, comment ça se fait ? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu perds.
Tu perds pied.
Tu sais, avec la réalité, tu sais même plus comment revenir dedans.
Surtout que dans le cas de Sam, la presse le qualifiait du JP Morgan, quoi, en fait, des cryptos, parce que... il avait une approche aussi hyper altruiste, parce qu'on se rappelle, JP Morgan, au début du XXe siècle, avait sauvé le monde bancaire en injectant de la liquidité, c'était en 1900, je n'ai pas la date exacte. Et Sam Bankman, il a fait un petit peu la même chose quand les cryptos ont commencé à se casser la gueule. Il était un des acteurs qui disaient « Non mais moi, j'ai fait fortune, on estimait sa fortune à environ 16 milliards et je vais réinjecter, sauf qu'il réinjectait l'argent de ses clients, c'est ça ce qu'on a découvert, pour essayer de sauver ce monde merveilleux des cryptos, Fred. » Il s'est pris à sa propre histoire. Hein.
Ça allait bien au-delà parce qu'en fait, il y a plein d'interviews, il y a plein de... où il t'explique qu'il veut que le monde soit meilleur et le fait qu'il ait donné, qu'il soit intervenu finalement dans des campagnes présidentielles. Hein. Alors ça, c'est autre,
ah c'est oui, parlons-en de ça. C'est dans les trucs croustillants, je voulais qu'on parle de ça. Vas-y, Fred.
Donc il a été le deuxième donateur dans la campagne de Biden.
40 millions de dollars.
Oui, ce qui n'est pas rien. Bon, c'était pas les siens, donc c'était facile. Mais pourquoi il le fait, tu vois? Je veux dire, tu t'envoies du signal, tu fais de la com. Au bout d'un moment, c'est plus que de l'image. Et donc, on voit que là, ça part en vrille. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je pense, qui se font rattraper un peu par la patrouille avant. Hein, ou qui ont d'autres valeurs et qui les protègent finalement de ça. Mais si personne t'arrête, ben en fait, tôt ou tard, tu vas prendre le mur. Et ça peut être très tard. Et dans son cas, effectivement, ben ça, la chute se fait de très haut, quoi.
Et d'ailleurs, en ce moment, à Washington, il y a beaucoup de monde qui est en train de faire, qui sont en train de faire glagla avec leurs fesses, hein, à Washington, parce que effectivement, Sam, en tout cas par l'intermédiaire de FTX, avait financé la campagne des démocrates. Et tout d'un coup, on se pose la question des relations entre Sam, FTX, les démocrates. Ça pue un petit peu. Je voudrais juste revenir sur, regarder un petit peu justement ce réseau social de Sam Bankman. Le père de SBF, Sam Bankman, c'est un professeur de droit de Stanford qui a fait de la recherche sur l'économie décentralisée. La mère de Sam Bankman, elle est également professeure de droit à Stanford et elle dirige une importante organisation de collecte de fonds. Pour qui ? Ben pour les démocrates. Et d'ailleurs, coïncidence, et ça c'est assez intéressant, SBF lance FTX 2 semaines après que Biden ait annoncé sa candidature à la présidence. Donc là, déjà, il commence à y avoir des sortes d'interrogations sur la chronologie des faits. Et il y a une autre personne dont on n'a pas parlé, qui est Caroline Ellison, qui elle est la PDG d'Alameda Research. Alors elle, je vous invite vraiment à aller voir sur Twitter ses vidéos, parce que c'est une gamine qui a à peine 20 ans. On se demande comment est-ce qu'une gamine de 20 ans... Alors elle est diplômée de Stanford, elle aussi. Là aussi, on voit toute la clique Stanford. Et ils ont travaillé ensemble avec Sam Bankman chez Jane Street, qui est un hedge fund. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. On dit d'ailleurs que Sam et Caroline étaient ensemble. Quand on regarde les clips sur Twitter de Caroline, on se dit, mais la fille, il y a un truc qui cloche. Hein. Eh bien, le père de Caroline, c'est le chef du département d'économie au MIT. Là où a étudié aussi Sam Bankman. Et vous savez qui était professeur d'économie au MIT ? C'est l'actuel président de la SEC, c'est-à-dire l'autorité de régulation des marchés, c'est-à-dire l'AMF, ça correspondrait à l'AMF, c'est-à-dire Gary Gensler, qui est le patron de la SEC aux États-Unis. C'est lui qui était le professeur d'économie au MIT. Et le directeur juridique de FTX, Ryan Miller, qui est un ancien avocat spécialisé dans la réglementation, devinez pour qui est-ce qu'il travaillait ? Il travaillait pour Gary Gensler. Donc, et c'est lui qui travaillait aussi sur l'affaire Enron. Donc là, tout d'un coup, on regarde. Mais ça, Fred, les fonds, ils auraient pu, les Sequoia, ça, ce que je suis en train de dire là. Moi, j'ai fait ce travail de recherche et on découvre en fait tous ces points d'interconnexion. Mais merde, chez Sequoia, il n'y a personne qui peut faire ça, parce que ça, on ne le découvre pas aujourd'hui. Ça existe, tous ces trucs-là.
En fait, ça montre la psychologie de marché.
Et les journalistes, bordel.
Ouais, mais ça montre ce que c'est, tu vois, comment le marché agit sur la psychologie des gens. Parce que quand tu es... parce que le marché était là il y a exactement un an, hein, on était dans des conditions complètement dingues, les valorisations étaient super hautes, tout le monde levait dans tous les sens. Et en fait... t'as beau avoir l'expérience que tu veux, bon alors tous les fonds ne le font pas heureusement, hein, mais quand même ça agit sur toi, tu te dis en fait il faut aller plus vite, il faut pas que je rate ce deal, l'argent c'est facile, ma réputation est en jeu, si je le fais pas, si j'ai pas ça dans mon portfolio, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, hein, je veux dire c'est de l'ego, c'est de l'image.
C'est le fear of missing out dont parlait Camille tout à l'heure.
Exactement, et puis c'est l'argent facile, hein, parce que dans un marché qui monte, finalement tu finis par te dire, bon, c'est de plus en plus facile de lever de l'argent, les coms sont de plus en plus importantes, bon, est-ce que vraiment je vais m'embêter à faire ces due deals alors que tout le monde est là, tu vois. En plus, c'est une question d'écosystème, tu le décris très bien, c'est-à-dire à un moment donné, si tous les gens que tu connais, que tu respectes rentrent dans un deal, il faut que tu y sois aussi, et puis au dernier moment tu vas jouer des coudes pour y arriver, ça fait monter la valo, et puis une fois que c'est fait, c'est trop tard.
Ouais, faudra qu'on fasse une émission à ce sujet-là, parce qu'il y a plein de choses à dire sur comment les fonds d'investissement, quelque part, c'est une sorte de petit meurtre entre amis et se rassurent les uns les autres avec ce fear of missing out. Camille, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se pose la question finale et la question fatale que j'ai envie de vous poser. Est-ce que le monde de la crypto est mort la semaine dernière? J'en parlais en introduction. C'est la question que je vais vous poser et on va terminer cette émission de Silicon Carnet.
Il y a un truc qu'on a oublié, c'est qu'en Europe, il y a une régulation qui est sortie, qui sort en 2024. C'est MiCA. Aux États-Unis, la régulation, elle n'est pas si avancée. Et notre ami Sam, il aurait bien voulu pouvoir parler au régulateur et lui expliquer comment il voulait que la régulation soit. Et du coup, c'est ça qui est hyper important à retenir, c'est que là, il avait tellement pris la grosse tête qu'il s'était dit, si je peux m'arranger pour que la régulation potentiellement m'arrange et soit dans le sens qui m'intéresse, ou pour que genre, j'ai les éléments...
Il y est arrivé, ça. Il a fait un lobby pas possible à Washington parce que justement, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Il a aidé les démocrates ont été élus. Il avait la porte grande ouverte auprès de la Chambre des représentants. Il a fait un lobbying pas possible auprès de Washington. D'ailleurs, Fred, il a été le pourfendeur de ce qu'on appelle la DeFi, c'est-à-dire ces plateformes décentralisées. Tu peux peut-être expliquer ça. Et justement, il a fait en sorte qu'il y ait des décisions qui soient prises en faveur plutôt de plateformes centralisées comme la sienne, plutôt que de plateformes décentralisées, où il essayait de montrer que ce monde de la DeFi décentralisée était très dangereux, alors que c'était lui le danger.
Voilà, ça fait partie des incohérences de toute cette histoire, parce que la réalité, c'est que tous ces tokens, la plupart en tout cas, ils sont construits dans un objectif de décentralisation. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on comprend pas bien, et c'est là où probablement on aurait dû avoir quelques petits flags, quelques petites alertes sur le bonhomme. C'est qu'en fait, ça n'a aucun sens. Tu vois, cette action-là, cet argumentaire-là n'a absolument aucun sens, même par rapport à son business. Et, mais bon, en tout cas, effectivement, c'est bien de faire la distinction de, en fait, SBF, c'est Wall Street qui débarque dans un marché et qui dépouille le marché. C'est pas la culture de la crypto, c'est pas la philosophie initiale de ce monde-là. Et là où c'est dangereux, c'est qu'en fait, ce mec-là et ces gens-là ont tellement d'influence qu'ils ont modifié cette culture, ouais. Au passage. Et le drame, il est là.
Et c'est vachement intéressant ce que dit Fred là. C'est-à-dire qu'on a des traders de Wall Street qu'on sait être des monkeys hyper dangereux, à qui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis tout un tas de réglementations pour éviter que ces gens-là fassent n'importe quoi, parce qu'on sait que quand on leur donne la possibilité d'agir, ils sont tellement greedy qu'ils font n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis toute cette réglementation sur les marchés financiers classiques et traditionnels. Et ces monkeys, je les appelle comme ça, je suis désolé, mais ces monkeys sont arrivés dans le monde de la crypto et sont dit, putain, c'est génial, parce que là, il n'y a aucune réglementation, on peut faire n'importe quoi, on peut tout faire. Et ils ont, quelque part, détruit la culture initiale, originelle de la crypto. Camille et ensuite Fred.
En fait, oui et non, parce que là, ils se sont quand même tiré une balle dans le pied, parce que du coup, bah, eux, ils ont des rendements à proposer à leurs fonds et à leurs actionnaires que là, ils vont être en incapacité de faire. Donc, je pense que, malheureusement... peut-être que c'était l'idée de départ, mais les lèvres a dépassé le maître et que finalement, ça va porter préjudice à tout le monde et que du coup, l'objectif de Sam a finalement en train de prouver que la DeFi est peut-être la solution
à ce problème.
Ouais,
c'est ça, la Decentralized Finance qui en fait fait qu'il n'y a pas d'autorité centrale, mais que le code et la loi et que quelque part, ce sont des algorithmes qui régulent.
Et surtout que l'algorithme n'est pas altérable. C'est-à-dire que ce n'est pas un être humain qui un matin se réveille et se dit « je change la règle du jeu ». C'est un algorithme qui est écrit et qui n'est pas altérable. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que là, si Sam un matin il se réveille et se dit « le FTX, tiens, le cours ne me plaît pas », je peux le changer en faisant des choses.
Ou en parlant sur Twitter.
Voilà.
Fred, les monkeys, on leur a filé une Kalachnikov, ils sont tirés dans les jambes.
Les monkeys, c'est des apes, tu sais. C'est sur ça que je voulais rebondir. En fait, Bored Ape Yacht Club, qui est une des collections les plus connues de NFT, ça vient de là.
Hein.
Exactement. C'est cette attitude qui consiste à cliquer, là, comme les vieux dans les casinos à Las Vegas, à cliquer de manière complètement idiote en suivant les autres. Et puis finalement, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Donc voilà, ça vient de ça. Et donc,
c'est Bored Ape.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est... En fait, ce qui est dangereux en termes de conséquences, c'est ce côté culturel. C'est-à-dire, c'est d'avoir introduit à l'intérieur d'une idéologie qui est quand même... très très chouette hein, de la décentralisation, d'avoir introduit toute cette dimension et d'avoir fait rentrer toute cette culture qui est une culture vraiment de Wall Street qui est pas très noble. Hein.
C'est le loup de Wall Street, Camille ?
C'est le pire des deux mondes, c'est la partie négative de Wall Street dans un monde qui était sympa. Et c'est en fait, cette affaire, c'est le worst of the two worlds.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le côté régulation, mais pas dans le bon côté. Et c'est le côté, le grand n'importe quoi de Wall Street qui avait lieu avant la régulation. C'est dommage.
Je vous pose la question, tu peux peut-être commencer, Camille. Est-ce que le monde de la crypto est mort la semaine dernière ?
Bah pour moi, le monde de la crypto s'est pris une énorme claque salutaire qu'il était temps qu'il se prenne. Parce que du coup, là, on se repose tous des questions sur les fondamentaux de ce monde. Pourquoi on y est ? Qu'est-ce qu'on veut y faire ? Et on arrête d'être pris dans « tiens, je suis tel tweet, je suis tel culte, je suis tel FOMO ». Et on se repose les basiques. Et quand on se repose les basiques et qu'on se repose sur des sujets, tu vois, par exemple, beaucoup de gens ont acheté, moi hier j'ai fait une conférence, beaucoup de gens ont acheté un Ledger et tu leur dis, t'as mis de l'argent sur ta Ledger, ils disent, bah non, parce que l'échange centralisé, c'était plus sécurisé. Donc là, les gens, on est back to basique. Le marché survit pas si mal que ça, finalement, comme aujourd'hui, hein, sachant qu'en même temps, dans la même semaine, il y a quand même les GAFAM qui ont clairement licencié beaucoup de personnes. Donc finalement, la crypto...
Tout le monde va mal, quoi. En fait, c'est ça ce que tu veux dire par là, c'est que on pourrait dire la crypto s'est cassé la gueule, mais en fait, on a l'impression que c'est le monde entier qui se casse la gueule. Donc finalement, il n'y a pas de valeur refuge aujourd'hui sur laquelle se replier.
Moi, je me vois surtout que là, ça nous prouve qu'on est rentré dans une maturité de marché où les gens ne viennent plus pour faire l'euro ou de gagner de l'argent, ils viennent pour les valeurs et la culture du marché. Et ça remet juste les pendules à l'heure. Moi, je trouve ça très... cette phrase est très bizarre, mais je trouve ça très positive que ça arrive maintenant plutôt que ça arrive plus tard et que là, les gens, du coup, ne soient pas en capacité d'écouter le message.
Fred, est-ce que ce monde de la crypto, on dit il n'y arrive pas. Ça fait depuis déjà presque 10 ans qu'on en parle et que 10 ans plus tard, on est encore face à ce genre de situation. Et quelle est ta vision là-dessus ? Est-ce qu'on va y arriver ? Parce que, comme tu le dis, l'idée, elle est incroyable, elle est magnifique, elle est super noble. Elle est malheureusement, comme elle est ouverte, il y a des gens qui s'engouffrent dedans et qui en font quelque chose d'horrible. Mais quand est-ce qu'on va s'en sortir ?
Alors déjà, est-ce que la crypto est morte ? Ben, justement pas. C'est-à-dire que la crypto, c'est quoi ? C'est des blocs, tu vois, qui s'enchaînent les uns avec les autres. Est-ce qu'Ethereum a cessé de fonctionner ? Est-ce que Bitcoin, tu vois, s'est dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» et s'est mis en pause ? Pas du tout. Donc, la technologie elle-même, elle montre qu'elle est d'une résilience incroyable. Donc ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que ça a vécu... Alors, c'était plus en stress quand même en début d'année hein, sur le premier passage de ce crash. Mais on voit que voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tout ne fonctionne pas. Ce qui était mal construit, ça casse. Mais en réalité... le truc continue à fonctionner, même si t'es pas dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais bon, là, c'est plutôt à destination des gens qui construisent aujourd'hui. Effectivement, bon, bah là, les clowns sont partis ou sont en train de plier les gaules et de rentrer chez eux. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je les vois. Hein, tu vois, on a des investisseurs qui reviennent nous voir sur Ariadne et qui nous disaient avant, finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de construire ? C'est pas si mal que ça. Et qui nous avaient un peu basé à l'époque, hein, véritablement, parce qu'ils voulaient des trucs très dynamiques, 100% digital. Les applications industrielles, ça les intéressait pas. Ils voulaient uniquement des produits qui alimentent le marché et sa spéculation. Bon, bah voilà. Tu vois, là, il commence à y avoir un regain d'intérêt, c'est-à-dire que le fondamental de la technologie fonctionne. OK, donc ça peut être appliqué dans des domaines où il faut de la résilience. Et là, le champ des possibles est immense. Et ce qui est intéressant, si on est investisseur avec du cash aujourd'hui ou entrepreneur avec du courage, c'est qu'en fait, la piste de danse est vide là. Et moi, la première boîte que j'ai montée, je l'ai montée juste avant le crash de la dot-com et je ne savais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était que la finance, j'avais rien de tout ça. Donc, je me suis juste retrouvé là à monter. Bah, à l'époque, on parlait Overblog. Et en fait, on n'était pas très nombreux à construire à ce moment-là. Et on a eu, on n'avait pas, c'est pas qu'on n'avait pas de pression. Je veux dire, on se mettait la pression qu'on voulait, mais on avait beaucoup moins de concurrence. On n'était pas envahi d'un espèce de bruit ambiant qui te fait regretter chaque seconde de pas faire ce que l'autre fait. Et en fait, quand on sort de ces périodes-là, et là, je pense qu'on rentre, on rentre dedans. On est déjà dedans depuis un petit moment, mais je pense qu'on a effectivement quelques mois, peut-être un peu plus de cette période-là. Quand on sort de là et qu'on a vraiment pensé à construire des choses utiles, ben, on est vachement fort.
Ouais, mais il va falloir tenir. Et puis, il y a un autre truc avant qu'on conclue cette émission. Tu parles de la résilience du monde de la crypto. C'est qu'à la différence des autres crashs financiers, citoyen ne va pas être mis à contribution parce qu'on sait que c'est le citoyen qui a sauvé les banques quand elles ont fait n'importe quoi. Ici, ça va rien coûter à Madame Michu, cette histoire-là, puisque c'est la crypto. Elle est décentralisée, elle est toute seule et c'est elle qui résiste seule. En fait, à ces crashs sans que les gouvernements aient à mettre la main à la pâte pour sauver le monde de la crypto. Et comme le dit Camille, elle a l'air de résister plutôt pas mal. Et je pense qu'effectivement, imaginer un monde sans crypto demain est absolument complètement illusoire. La crypto, elle sera là, elle va continuer à exister. Mais bon, voilà, ça va prendre plus de temps que prévu. Il va falloir tenir et continuer à builder, comme tu dis, Fred. Et c'est un super moment pour le faire parce que les clowns et les monkeys sont partis. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!